se respecter ses obligations. Hein. C'est juste qu'on lui demande, en gros, c'est de respecter ses obligations. Donc, en janvier 2023, 28 organisations ont signé un rapport « En finir avec les violations des droits des mineurs isolés ». Elle faisait 90 propositions pour une meilleure protection. Ce rapport est toujours d'actualité. La métropole de Lyon vient de déposer un vœu au conseil municipal pour cette présomption de minorité durant les démarches en tant que la minorité n'est pas établie. On attend que d'autres villes, si possible les grandes villes, puisque c'est là que les mineurs isolés sont le plus non accompagnés, ne sont présents. Donc c'est bien une question politique, hein, comme disait tout à l'heure Damien et Fousséni. C'est pas juste des questions de procédure ou des questions de marathon administratif. C'est d'abord une volonté politique de laisser personne à la traîne dans le pays des droits humains, de les faire respecter pour tout le monde. Merci à tous nos invités. Merci. On va céder la place à l'émission suivante et la prochaine émission de la Ligue des droits de l'homme aura lieu, je crois, au mois de juin, c'est ça ?
Normalement, c'est tous les mois.
Ah, c'est pour nous peut-être que c'est au mois de juin. Bon. Donc, voilà, rendez-vous dans un mois alors.
Normalement, c'est chaque premier ou cinquième vendredi du mois.
Ah, merci Guy pour cette précision. Premier ou cinquième vendredi du mois. Merci, bonsoir et à bientôt.
Au revoir.
Merci.
Au revoir, merci.
Thank you. 22:30. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, à tous les Yels, Yels de la planète. C'est de poste non-radio show, je n'arrive pas à caler mon micro. Bonsoir, c'est... Voilà, je suis mal assis, mal calé. C'est de poste... Non, ça va pas. Voilà, comme ça. Bon, je recommence. Bonsoir, c'est de poste non radio show qui commence ce soir à 21h10. C'est, voilà, la musique du fond était trop forte.
Oui.
De poste non radio show, Radio Libertaire. Bonsoir Serge.
Bonsoir Henrik, l'irremplaçable Henrik.
Oh merci Serge, oh quelle flatterie, vive flatteur. Nous ne sommes pas à la cour du roi Macron ici. Hein. Quoique, je ne suis pas insensible aux flatteries. Voilà, ça, voilà, comme tout, toute personne ayant une once de demi-crotte de pouvoir. Merci Serge. Oh là là. Bon, allez, on arrête les conneries. De poste non radio show, Radio Libertaire, je l'ai déjà dit, je radote déjà. C'est super. Yves.
Ah, je croyais que tu allais m'oublier. Ben non, non, je suis
non,
là. Oui,
là,
bonjour.
Non, t'es là.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Henrik.
Le mec qui lit des articles super chiants pendant des heures. Salut Yves. C'est une blague, hein, le prends pas mal.
Ah bah si, je vais le prendre mal.
Mais si, il va me faire.
Je vais adresser une réclamation aux gens qui écrivent ces articles en leur disant je me fais engueuler à cause de.
Non, mais surtout, après, tu vas me faire une tête au carré quand on sera tous les deux tout seuls. Tu me diras ouais, gna. Bon, Guy est occupé, mais il arrive dans un instant. Il était avec la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme. Ah, bon, bref. Donc, de nouveau, une émission. Un numéro de cette émission, désormais célèbre, dans le monde entier, puisque nous sommes. Sur le 89.4, c'est en FM à Paris, mais également sur le internet, anarchiste.info, ça c'est pour le site officiel, radio-libertaire.org pour le site officieux, sur le DAB. Alors, tu m'as dit, alors sur Mixcloud également, puisque... Vous pouvez nous retrouver sur Mixcloud, moi et Alexandrine de Idéo et Débat par exemple, et Break This Mess sur à peu près la même page, mais plein d'autres émissions ont des pages sur Mixcloud, et puis alors, plein de trucs, aller après sur plein d'autres plateformes pour s'aimer, se faire connaître, et puis sur le DAB+. Et alors, on ne dit pas que l'on est sur le multiplex 9A, mais sur le multiplex A9.
Non, 9A. C'est bien 9A.
Ah, merde, je crois que c'est...
La semaine dernière, tu dis A9, mais on dit le 9A.
Ah là là, ah. Ok, d'accord, je me suis encore gouré.
Mais de toute manière,
c'est
sur
super,
le DAB+, il n'est pas nécessaire de chercher la fréquence ou le canal... Puisque on choisit la station selon le nom, en fait, dans l'ordre alphabétique.
Mais ça, c'est une conséquence de l'écriture inclusive à laquelle on n'avait pas encore pensé. C'est-à-dire que non seulement il faut lire auteur.trice,
n'importe quoi,
mais il faut maintenant, à certains moments, mais il faudra un signal, savoir dans quel sens on lit. Si on lit de droite à gauche pour lire 9A ou de gauche à droite pour dire A9. Voilà. Je suggère aux partisans. de cette foutue réforme.
Non, mais je crois que t'es meilleur.
De l'améliorer un petit peu quand même, parce que si on ne sait pas dans quel sens lire.
Il nous raconte là.
Ben justement, c'est un peu par rapport au sens dont nous devons lire certaines instructions. Par exemple, effectivement, on doit lire. Enfin, de toute manière, c'est le 9A. Voilà.
Alors, parce que tous les mots français n'étant pas les palindromes, suivant le sens où on les lit, ça peut différer.
Alors, juste une remarque sur le DAB. Dernièrement, ces derniers jours, on voit fleurir dans le métro, par exemple, des affiches sur écouter en DAB et surtout. Ce qui est mis en avant, c'est le son. Le son du DAB est de meilleure qualité. Et j'ai également entendu des spots, par exemple, sur France Info. Alors, j'y mettrai un bémol. Ce bémol est que, par exemple, chez moi, tant que tu ne trouves pas la bonne position de l'antenne de ton poste,
il n'y a rien.
Déjà, tu n'as pas la bonne réception. Donc, avant d'avoir le bon son, faut déjà avoir la bonne réception. Donc, un poste DAB, finalement, il y a une antenne et qui est sur ton poste DAB. C'est comme un poste radio, sauf qu'il a toutes ses formules moderne en plus, mais il a une antenne aussi, comme l'ancienne formule. Et si tu tournes pas l'antenne dans la bonne direction, t'as pas la bonne réception. Donc, avant d'avoir le bon son, il te faut avoir la bonne réception.
Tout à fait.
Voilà, c'était mon bémol pour faire un peu mon mesquin habituel.
Non, mais c'est pas mesquin, voilà. Effectivement, mais tu non, remarques. Voilà. C'est très bien ta remarque, effectivement.
Effectivement,
nous sommes sur un site en DAB+ qui est très bas par rapport à d'autres sites DAB+, et nous sommes le site le plus faible en puissance par rapport à d'autres sites de multiplex. Voilà.
Alors moi qui habite en banlieue proche à Alfortville,
voilà, c'est plus difficile.
Par exemple, il faut que je tourne l'antenne pour avoir la bonne réception, pour finalement avoir ce fameux bon son.
Oui, tout à fait. Et puis,
Y a un peu des raccourcis quand même dans la publicité, où c'est quand même toute publicité, il y a des raccourcis en fait. Hein.
Mais
on te vante le produit avant en excluant de te dire que le produit, quand même, avant, il y a des petites lignes tout en bas du truc que tu dois lire pour que ça soit cette fameuse écoute optimale soit la meilleure.
Oui.
Voilà. Alors, avant qu'on attende que qui s'installe, on va faire les annonces comme d'habitude de la librairie Publico, puisque je suis effectivement chargé, non, je plaisante, je le fais de bon cœur. Samedi prochain, le 3 février, c'est-à-dire demain, 16h, le groupe Livre Cédille propose Meurtre à la Grange aux Belles, quand les communistes flinguaient les anarchistes. Installe-toi, dit. Le temps que je digère. Oh là là, j'ai pas mangé grand chose, mais alors j'en peux déjà plus. Et quand les communistes flinguaient les anarchistes de Sylvain Boulouk. Puis, dimanche, le lendemain, le 4, c'est Sarclo. Attends, j'enlève vos micros là, pour qu'on n'entende pas. À 16h, Sarclo dit Sarcloret, enfin, Sarcloret dit Sarclo, en concert, il chante Dylan en français, mais surtout du Sarclo. Il a l'air sympathique, le monsieur. Samedi 10 février, à 16h, formation professionnelle, le grand détournement. Il y a une projection et il y a un débat. Et je crois que c'est dans l'air du temps. Hein. cette histoire de profession, de formation professionnelle, qui est absolument un gouffre. D'ailleurs, Élise Lucet, peut-être qu'un jour, elle va, je ne sais pas si elle s'y est intéressée. Dites-moi si Élise Lucet s'est intéressée un jour à la formation professionnelle. Non, parce que ça serait bien de s'intéresser à ça. C'est vraiment un truc absolument insensé. Bon, dimanche 11 février, 16h, c'est le retour de Nathalie Solence. Elle continue à chanter. Et là, elle sera avec Claude Guen à la guitare et Jean-Pierre LG et... Oh putain, j'y arriverai pas. Et Gilles Dinger à l'accordéon. J'y suis arrivé. Et dimanche 21, enfin, à 20h, c'est un film Villa El Salvador, Les bâtisseurs du désert, un documentaire réalisé et écrit par Jean-Michel Rodrigo et Marina Poyam en 2008. C'est le programme pour le mois de février de la librairie Publico. Allez-y, et puis morceau avant de nous retrouver. Don't feel ready to erect. My back's still broken from loss of faith. I still think about the words that you said. Don't feel ready to erect. My back's still broken from loss of faith. I still think about the words that you said. I wonder, is it true or is it what you meant? The damage is done, but there's ringing in my head. The desert storm is approaching from the land. I guess no sleeps, no eats, and no rest. Covered in violence with love round my neck. Life's so boring when you're already the best. What's the story when you go beyond the edge? Place an image in your head. A silver in your eyes. I'm no longer happy. Such a terrible time. Holy moly, you better take your chance. I'm here for one and only. No procrastinate. Holy moly, you better take your chance. I'm here for one and only. No procrastinate. Oh, won't you come over, come over, come over, baby, grab your chain. Do both hands if you want it. The shame you create is too proud of this deed. When your story ends, the truth shall come. Time is over, time to die. Time passed over, the winter brings the hurt. Joy shall follow when winter brings the hope. Joy will return. Joy, joy. Don't feel ready to break. My back's still broken. I'm all lies and fake. I still think about the words that you said. Say. Don't feel ready to break. My back's still broken. I'm all lies and fake. I still think about the words that you said. I'm in for one night only. No procrastinating. Holy moly, you gotta take your chance. I'm down here if you want it. No procrastinating. Oh, won't you come over, come over, come over. Better grab your chance. With both hands if you want to. Before we're dead. Radio Libertaire, de poste non Radio Show, genre, je me suis complètement gouré, c'est pas du tout ce que je voulais passer, mais c'est pas grave. Voilà, alors, cher co-animateur, bonsoir.
Rebonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir à Guy qui vient d'arriver.
Oui, bonsoir.
Ah, bonsoir, oui, Guy.
Ah, oui, ça y est, je suis là. Oui. J'ai toujours été là, en fait, mais bon.
Oui, on sait. Je l'ai dit, tu étais occupé.
Oui.
Et puis.
Alors, qui veut nous rendre la vie plus joyeuse avec plein d'informations puisées dans les sources préférées, pas les miennes. Hein. Moi, je laisse faire complètement.
Alors, Yves, est-ce que tu as quelque chose
alors,
sélectionné
alors,
quelque
moi,
chose
je pourrais
en article
vous lire quelques titres pour commencer, pour voir. Défiler sur les Champs-Élysées. Ça, c'est le titre du canard.
Jeu de mots.
Oh, qu'ils sont
jeu
méchants.
De mots.
Oh, qu'ils sont méchants, canard.
Champs-Élysées.
Et puis quoi d'autre ? Paris menacé par les menaçants. Que faire ? Par les paysans, pardon. Que faire ? Ma langue a fourché. On a refilé. Alors, il y a des militaires en dessous, et puis il y a sans doute des gendarmes. On a refilé presque tous nos blindés et nos AMX canons César à l'Ukraine. Voilà, enfin, il en reste au moins un ou deux sur un autoroute, j'ai vu, sur un pont sur la Loire, je crois. J'en ai un autre, déclaration de politique générale. Merci, un grand merci aux agriculteurs. Je me demande qui peut parler. C'est Attal, mais il est vraiment mal dessiné, quoi. C'est pas terrible. Enfin bon, je sais pas faire mieux. Un grand merci aux agriculteurs sans qui ce discours n'aurait pas été très attendu. Bon, c'est de l'humour, d'accord. Et sinon, bah, j'ai acheté Le Monde, alors que d'habitude, j'achète pas Le Monde, parce que c'était...
Ah bah non, t'achètes pas Le Monde.
Non, pas le vendredi. Parce que les
ah
plus
oui,
chers,
d'accord.
Enfin pas Le Monde daté du samedi donc.
Non.
Parce qu'il a un livret donc j'ai rien à
il
faire.
Il y a le magazine Le Monde qui est oui, voilà. Un truc infâme.
Non, j'avais une idée à peu près conçue. En fait, c'est pas si mal
dire
que ça.
Leur magazine, non.
Et ça m'intéresse moins.
Leur magazine du week-end est un truc infâme, gorgé de pubs.
Non, il y a des trucs intéressants. Il y a des articles de plusieurs
et
pages.
Qui sont. C'est un torchon, quoi. C'est un torchon. Friqué, c'est. Non, c'est inintéressant.
Donc, il y avait un gros titre dans Le Monde. Et c'est pour ça que j'ai acheté, malgré tout. C'est « Agriculture de points, sortie de crise aux frais de l'écologie ». Ah, je me suis dit, bon. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu encore qui m'a fait décider Marie-Lise Léon, qui est secrétaire générale de la CFDT, dit « La suppression de l'ASS me paraît abrupte ».
Ben, oui, moi aussi, ça me paraît un peu abrupt.
Pour le moins, oui. Elle dénonce un discours de culpabilité des chômeurs tenu par Gabriel Attal.
Ça continue. Hein.
Elle appelle le gouvernement à clarifier ses intentions sur la réforme du travail, acte 2. Et elle s'interroge enfin, auquel un mauvais esprit, sur la bienveillance vis-à-vis des agriculteurs manifestant leur colère comparée au traitement peu amène des cortèges syndicaux 2023. Oh ben moi, j'ai regardé la télévision hier et il passait un passage. Bon, ben, en Allemagne, où on posait la question aux manifestants qui bloquaient pas les routes. Hein. Vous envisagez pas de prendre des mesures un peu comme en France, bloquer les autres ? Il dit oh ben non, en France on peut peut-être faire ça, mais ici si on commence à faire ça immédiatement, il y a les forces de l'ordre qui rappliquent, c'est impossible. Bon voilà. Et quant aux Espagnols qui sont de l'autre côté du pays, donc au sud. Pour ceux qui auraient des problèmes, il disait, ah ben, il y a pourtant la libre circulation, donc on est en train de perdre de l'argent. Et d'autres, ils disaient, mais à force, je vais paraître contre ces manifs. Enfin, je raconte. Et ils disaient, en copiant peut-être ce que disaient les sociétés d'autoroutes qui ont perdu beaucoup d'argent, nous, on veut juste traverser la France et aller en Allemagne et dans les pays du Nord, et donc on ne peut plus, et c'est une perte de... Bon, et cela ne parlait pas des camions qui étaient ouverts, mais bon, voilà. je ne sais pas combien il y a eu de gens éborgnés dans les manifestants, mais j'en ai pas entendu parler. Bon, j'arrête de faire du mauvais humour.
Non, tu peux continuer à faire du mauvais humour.
Bah, ça a commencé cette histoire avec un dénommé Monsieur Bike, un agriculteur. Enfin, c'est un éleveur. Hein, un éleveur. Il a des vaches. 80, 90, je ne sais plus. Il travaillait tout seul. Son père s'est suicidé. Quel âge il peut avoir? 40, 45, je sais pas, à vue de nez, comme ça. Et donc, c'est à son origine qu'il y a des blocages. Et puis, il expliquait dans une interview que j'ai entendue que, bon, bah, lui, il avait fait démarrer le mouvement et qu'ensuite, et bah, lui, c'était un éleveur. Il était dans sa ferme, il s'occupait de ça 24 heures sur 24. Bon, et donc, il ne savait pas trop comment organiser le mouvement au mieux. Et donc, pour ça, il s'était organisé avec... il avait dit, bah, c'est à vous, la FNSEA, de prendre les choses en main au niveau national pour les négociations, parce que moi, négocier avec le ministre, bon... voilà, ben, c'est une première idée bizarre, mais je comprends. Je comprends, mais c'est objectivement bizarre parce qu'en fait, lui, il a eu satisfaction assez rapidement de ses demandes particulières. Au même moment, la FNSEA, elle déclarait qu'il fallait augmenter le mouvement, bloquer tout, converger sur Paris éventuellement. Je ne sais plus exactement ce qu'il disait, j'ai rien sous les yeux. Mais bon, c'était la tactique inverse. Et la FNSEA, c'est le premier syndicat agricole. Les autres n'avaient pas tout à fait cette optique-là, soit qu'ils n'aient pas démarré, soit que je n'ai pas entendu, simplement. Je n'ai pas suivi très très près. ce qui m'a semblé curieux, c'est que M. Rousseau j'ai vu un article... un titre d'article où il disait c'est le jeu, une sorte de jeu qu'il a fait. Finalement, il représente quoi? Alors, j'ai entendu sur un plateau télé, ah, mais la FNSEA, les gens sont élus à chaque échelon, et donc les élus élisent les élus, etc., jusqu'au sommet, et ils nous défendent, etc. Bon, mais la réalité est un petit peu différente. Je voudrais, par exemple, parler de la taxe sur le GNR. La taxe sur le GNR, elle a été organisée. La dernière réunion, c'était en novembre ou en décembre, de mémoire. Et donc, la FNSEA a signé en co-gestion, disent les uns, avec le ministère, un petit texte où il disait qu'on augmentait le GNR. Donc, ils étaient d'accord avec le gouvernement, ça avait été acté, etc. Et puis, brusquement...
Brusquement,
on s'aperçoit qu'ils ne sont plus tout à fait d'accord, les agriculteurs. Et donc... alors, la remise se fera désormais à la pompe et non en fin d'année, ça c'est bien, enveloppe de etc. Mais ce truc qui a été négocié, moi je comprends pas tellement contre quoi ça a été négocié. Les agriculteurs, enfin, Rousseau, Monsieur Rousseau, le dirigeant de la FNSEA, il accepte donc que le GNR augmente. Ça a pas l'air de le gêner beaucoup, mais il obtient quand même une petite contrepartie. Mais apparemment, il y a un autre syndicat qui disait, ce que j'ai lu aujourd'hui, qu'eux, ils préconisaient que le niveau du GNR reste identique jusqu'à 10 000 litres, et qu'ensuite seulement, il y a une taxe qui augmente. Donc apparemment, les optiques ne sont pas tout à fait les mêmes. J'ai l'impression que la FNSEA considérait, ou M. Rousseau de la FNSEA, considérait que tout le monde pouvait bien payer cette petite taxe, qu'il n'y a pas de problème. Et apparemment, ce n'est pas le cas. Il y a des gens que ça impacte directement. Donc en fait, cette FNSEA, elle défend beaucoup de monde, mais dans des situations très diverses, et je ne vois pas tellement le rapport entre les revendications de M. Blais, avec ses 90 vaches, là, et celle d'un monsieur qui a commencé par ne pas être agriculteur, mais par être courtier, et puis ensuite, il reprend la ferme de son père, et il monte sur un tracteur, vraiment, lui, où il a des ouvriers qui travaillent pour lui. Enfin, bon, c'est des petites comme ça que je me suis posé. Ça a l'air d'être quelqu'un de très brillant, mais est-ce qu'il est vraiment agriculteur? Bon, évidemment, au niveau de la loi, au niveau de la définition, il doit l'être. Mais c'est cette définition qui commence à me poser un problème. Bon, voilà. Et puis sinon, j'ai entendu une émission hier, c'était intéressant, c'était avec Madame Lucet, Lise Lucet, et donc elle parlait de... Elle a fait intervenir un certain nombre de gens, et il y a un moment où on avait abordé le problème des... Comment ça s'appelle ? Des... De l'accaparement des terres. Voilà. On en avait un petit peu parlé, mais j'avais pas d'exemple précis. C'était un article dans la Tribune, et puis ça renvoyait à un article des Amis de la Terre. Le problème, c'est que c'est des sociétés, c'était assez bien raconté hier, des sociétés qui rachètent la terre de paysans, alors des sociétés qui sont montées par des paysans et qui rachètent la terre de paysans qui sont autour. Et donc finalement, ces paysans-là, qui sont à la direction de ces surfaces de plus en plus grandes, surfaces agricoles à travailler de plus en plus grandes, ils sont plus du tout paysans, quoi. Ils sont, alors peut-être qu'ils ont encore, du point de vue de la sécu ou je sais trop quoi, le terme de paysans, mais en fait, c'est des gens qui s'occupent de gestion ou des gens qui s'occupent de finances, mais qui ont qu'un rapport lointain avec l'agriculture, en ce sens qu'ils embauchent des gens pour travailler pour eux. Bon. Avec différents statuts que je ne connais pas bien. Mais cependant, à propos de ces statuts, il y avait une dame qui racontait qu'elle avait pris un contrat avec une société comme ça qui possédait plusieurs milliers d'hectares, ou au moins 1000 hectares, de l'autre côté du Rhône. Et donc, elle avait présenté un dossier pour exploiter ces hectares pendant une durée de 5 ans dans le contrat, et donc ils s'étaient mis d'accord par contrat, donc avec un prix fixé à l'avance pour... Alors elle était obligée de vendre sa production à cette entreprise avec qui elle passait un contrat, elle ne pouvait pas vendre ailleurs, et par ailleurs les prix étaient fixés, et puis elle était contente, elle a donc dépensé 700 000 euros pour acheter du matériel pour exploiter le truc convenablement, parce qu'il y a un investissement, disons, 700 000 euros, mais elle pensait qu'en 5 ans ça serait faisable et qu'elle pourrait en vivre. Et tout se passait bien, suivant la ligne qu'elle s'était fixée. Elle s'exprimait à la télévision à côté de son avocat, parce qu'au bout de 3 ans, l'entreprise décide de baisser le prix auquel il rachète les produits qu'elle cultive. Donc elle essaye de s'opposer au truc, mais en fait il y a un procès, elle n'y arrive pas, et donc finalement son entreprise est mise en liquidation judiciaire, parce qu'elle ne peut pas suivre avec un prix. Elle est obligée de vendre uniquement aux gens avec qui elle a passé le contrat, et d'autre part, unilatéralement, ces gens décident de baisser de façon assez considérable, pour que ça devienne un problème, les prix auxquels ils rachètent sa production. Ça, c'est un truc de fou. C'est plus un contrat, c'est de l'esclavage. c'est un truc incroyable, quoi. Et donc, on comprend qu'en fait, il y a un déséquilibre complet. Il y a d'une part les gens qui ont ce fric monstre pour pouvoir racheter des terres comme ça d'une façon énorme, quitte à faire monter les prix, ce qui citait également dans l'émission de Lise Lucet hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, en passant de 1 000-2 000 euros l'hectare à quelquefois 10 000 voire 20 000, donc une puissance énorme financière. Et puis j'ai un trou, excusez-moi.
On continue.
J'ai un trou.
Oui, oui, c'est un accaparement des terres.
Accaparement des terres, oui. Ouais. Et donc, ces groupes financiers qui finalement font monter d'une façon folle.
Leurs exigences changent les termes du contrat.
Oui, mais
eux qui ont posé les termes du contrat à la base.
Oui, c'est ça. Et donc,
finalement. Étrangle les gens qu'ils ont embauchés.
T'as quelqu'un qui est agriculteur vraiment, qui travaille sur le terrain et qui sait ce qu'il faut faire pour faire pousser les choses. Et puis face à elle, au moment du contrat, on lui propose un contrat, elle accepte, elle le signe. Peut-être qu'elle avait déjà un avocat à l'époque, je l'ignore. Mais les gens qui font ce genre de clause, ce genre de contrat, c'est des armées d'avocats.
Bon, assez.
Et donc tu te retrouves, s'il n'y a pas la ligne où il dit le prix est fixé une fois pour toutes pour 5 ans, et si tu fais, et s'il y a un truc, s'il n'y a rien là-dessus, évidemment le prix peut varier.
Alors, ce qui est assez incompréhensible, c'est pourquoi tu contractes des gens pour remplir telle fonction et qu'ensuite tu les plombes.
Bah, eux, ça les a intéressés pendant 3 ans. Ensuite, peut-être qu'ils veulent.
Mais qu'est-ce qu'ils font après avec cette exploitation qui est endettée? Ils rachètent les dettes, ils font quoi? Ils laissent couler cette femme?
Le but,
c'est quoi de ces grosses sociétés? C'est quoi?
C'est de faire du fric.
Oui, mais après, quand ces sociétés est en liquidation, donc elle est reprise par qui? Comment? Elle est reprise par eux, puisqu'elle leur revient, cette société.
Non, ils sont pas capables de l'exploiter. Ils font appel à des exploitants.
Donc ils font appel à un autre exploitant.
Donc ils vont faire appel à un autre exploitant probablement, oui. En espérant en tirer plus ou.
En toucher plus, mais toucher plus sur l'exploitation, mais en espérant le contraindre à leur. Donc là, on est
Ce qui est surprenant, c'est que c'est un truc qui est valable pour 5 ans. Et que quand elle apprend la baisse qui tente de lui imposer, évidemment, elle commence par essayer de négocier, d'expliquer, et que ça finit par aller en justice, et qu'en justice, elle perd. Et donc, la seule solution qui se trouve disponible pour elle, c'est de se mettre en liquidation judiciaire pour ne pas perdre de l'argent tous les mois, quoi. Non, mais c'est un truc de fou. Ça c'est quelque chose. Je pense qu'il y a une différence entre ce type de cas, qui est imputable à une petite révolution qui s'est déroulée, qui est en train de se dérouler dans l'entreprise, dont je comprends que la FNSEA puisse avoir envie de tenir compte, à savoir d'énormes surfaces. Le problème de M. Baye qui lance le mouvement. On n'est pas dans le même monde.
Non, on n'est pas.
C'est une absurdité de penser que. Et d'ailleurs, Monsieur Rousseau, c'est un céréalier. Bon, très bien. Moi, j'ai entendu tout le temps, c'était comme un élément de langage, on vous nourrit 3 fois par jour. Bon, très bien, on vous nourrit 3 fois par jour, mais vous n'êtes pas les mêmes, là. C'est pas les mêmes qui me nourrissent 3 fois par jour, et puis le gars qui est céréalier. Le gars qui est céréalier, j'imagine qu'il en fait une partie pour ce qu'il vend en France, peut-être une partie qu'il exploite à l'étranger, qu'il exporte à l'étranger, pardon, on n'est pas sur les mêmes... On n'est pas sur le même métier, finalement.
Non, en plus, c'est M. Rousseau. Il faut bien comprendre, si vous cherchez sur Internet, c'est quelqu'un qui est bien particulier, ce M. Rousseau. Ce M. Rousseau, il tire bien son épingle du jeu. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure en privé, c'est un copain de Macron, comme Macron était copain avec le chef des chasseurs. Enfin, le maître qui dirige les chasseurs, c'est des accointances, on file des avantages à tous les gens qui ont un peu de pouvoir dans la France, en France, que ce soit les chasseurs, les grosses têtes, quoi. Donc on est vraiment dans le régime de la royauté, ou dans une pseudo-république où ça continue comme, comme d'habitude, où les députés s'augmentent, les sénateurs s'augmentent, le timing n'est pas bon, tous les partis politiques apparemment ont voté pour leurs augmentations. Ils savent même plus comment se défaire de ça. C'est le sujet de l'agriculture noie un peu les autres sujets là. Mais il y a tous les partis qui sont qui ont été pris le doigt dans le pot de miel là. On s'est augmenté les frais de mandat. Alors les frais de mandat, c'est pour payer les assistants, les taxis, les nuits d'hôtel, les restos, tout ça quoi. Donc c'est l'inflation. Nous, l'inflation, on l'a subie aussi, mais nous, on doit fermer notre gueule. On est les pauvres, on est le peuple de pauvres. Voilà, basta.
Attends.
On est vraiment chez les ripoux. On est dans la république, la république des ripoux, la république de ceux qui s'en foutent plein les fouilles et qui se foutent de notre gueule. Déjà, alors, ça fait très populiste, hein, mais je ne vois pas comment tu peux avoir un autre discours que celui-là. Franchement, moi, tu simplifies à l'extrême, tu comprends pas pourquoi, en même temps, t'as Attal, t'as l'autre, là, qui a 12 ans, là, qui est ministre, et qui est déjà, il a 14 ans, il est déjà ministre, premier ministre, qui dit, il faut désmicardiser la France.
Non, mais ça,
donc
c'est
en même temps, là, on est vraiment dans des discours putassiers.
Mais c'est pas ça, c'est que la
putassier,
veille.
Non, mais excuse-moi, putassier.
La veille,
on est dans la putasserie, on est dans le mensonge, on est dans les pauvres, on vous emmerde. On fait comme si. Qu'est-ce qu'il va faire ? Tu peux contraindre une boîte privée à augmenter son personnel. Tu ne peux pas contraindre une boîte privée à contraindre son personnel. Par contre, ces gens-là, eux, ils s'augmentent. Par contre, la flicaille qui va faire les bouffons au JO, 1900 euros de prime pour supporter les, on ne sait combien, le désastre à venir. Enfin, tout ça est révoltant, et plus ça continue, plus c'est révoltant. Et aucun de ces personnes, aucune de ces personnes ne se dit... Alors, après, on peut se dire, t'as un discours populiste de merde, etc. Ou de gauche, ou d'extrême gauche, ou tu peux le situer à tous les bords que tu veux, je veux dire. Au stade où on en est, de toute façon, peu importe, on s'en fout. Nous, on est... Enfin, voilà. Donc, c'est quand même... C'est la reculade... Enfin, bref.
Moi, j'ai tapé sur Internet qui utilise le glyphosate.
Ah oui.
Et alors ça, c'est intéressant, parce que je rappelle que déjà, il est interdit pour les particuliers, il est interdit même peut-être pour les cimetières. Je crois qu'il est interdit dans les lieux publics.
Dans les cimetières.
Dans les cimetières, entre les tombes, il y avait des gens qui mettaient du glyphosate.
Comme la SNCF, pareil.
Alors, la SNCF se servait du glyphosate, a trouvé autre chose. Il n'y a pas de problème, apparemment. Mais donc, j'ai trouvé un article, mais qui concerne seulement, mais ça doit être à peu près analogue partout, qui concerne l'Île-de-France. Et donc... c'est un article qui est fait par la région, j'imagine, j'ai pas suivi, par la région Île-de-France. Et donc, il raconte quelle est l'utilisation, d'abord, c'est de la grande culture. Utilisation, la typologie d'utilisation du glyphosate, d'abord, c'est en grande culture. Ensuite, il y a en interculture, on va expliquer un peu après. Et puis, bon, voilà, c'est tout. Autrement dit, il n'est pas question là-dedans de M. Baye et de ses vaches. Bon, il n'est pas question là-dedans des gens qui ont une petite exploitation, qui n'ont jamais vu la couleur de la PAC parce qu'ils ont, par exemple, pas suffisamment d'hectares. À ce propos-là, d'ailleurs, il y a des gens qui proposent de mettre les aides de la PAC non pas à l'hectare, mais sur le nombre de paysans qui travaillent effectivement sur la terre. Je parle de gens qui travaillent la terre, pas de gens qui sont dans les bureaux pour embaucher ceux qui sont ou alors ceux qui travaillent à la terre, ou alors de ceux qui font des trucs financiers, etc. Des gens qu'on appelle un paysan, c'est quelqu'un qui va travailler la terre. Et pas qui s'occupe uniquement de financiarisation. Donc, la première utilisation, elle se passe en grande culture, donc, et elle sert à détruire les adventices vivaces pendant l'interculture ou à détruire les plantes invasives ou toxiques pendant l'interculture. Le premier cas, c'est à 83%, le deuxième à 61%. Bon, par exemple, quand on a le désherbage ou la destruction de cultures porte-graines, c'est 6%. Quand c'est l'entretien des abords de ferme, c'est 34% d'utilisation du glyphosate. Bon, vous voyez, c'est un truc que quand même, ça sert essentiellement pour la destruction de ce qu'on appelait sans doute avant les mauvaises herbes. Bon. Ensuite, où est-ce qu'elle est utilisée? Ben, dans les farms de moins de 50 hectares, qui représentent 12% des fermes, c'est utilisé à 14%. Hein, c'est la part des surfaces traitées au glyphosate. 14% des terres de moins de 50 hectares, qui représentent 12,2% du total des terres. Pour de 50 à 100 hectares, qui représentent 18% des terres, c'est utilisé la part des surfaces traitées au glyphosate, c'est 12%, donc c'est moins. De 100 à 150 hectares, il y a 21% des fermes qui sont entre 100 et 150 hectares, ça représente 15% la part des surfaces traitées au glyphosate. Ensuite, ça augmente. De 150 à 200 hectares, qui représente 16,9%, donc 17% des surfaces agricoles utiles, des SAU, ils appellent ça. Donc, ça fait 21% des terres, de 200 à 200... Bon, j'arrive à plus de 350 hectares. Alors là, il y a un saut. De 275 à 354 hectares, ce qui représente plus que 8% des exploitations classées par taille de la surface agricole utile. Donc, ceux-là, ils utilisent 25%. La part des surfaces traitées au glyphosate, c'est 25%. Et puis, brusquement, il y a un saut. Ceux qui cultivent plus de 350 hectares, qui représentent seulement 6% de ces terres, ils utilisent le glyphosate pour 40% des surfaces traitées. Ah, c'est surprenant, ça. Donc, plus les surfaces à exploiter sont grandes, et plus on utilise de glyphosate. Autrement dit, le gars qui fait de la culture avec ses 2 hectares pour nourrir une ferme traditionnelle, disons, elle n'utilise déjà pas depuis longtemps ou n'a peut-être jamais utilisé du glyphosate. Ensuite, il y a un truc encore pire, c'est l'utilisation en interculture suivant la stratégie de travail. Alors, il y a un phénomène nouveau qui est apparu il y a quelques années, c'est le fait de considérer qu'il y avait une alternative au labourage. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des gens qui ne labourent plus et qui considèrent que ça favorise un certain nombre de choses pour la terre. Au niveau écologique, au niveau dépenses énergétiques des tracteurs, ça permet d'avoir des tracteurs qui sont moins puissants, d'avoir peut-être moins de tracteurs, parce qu'en fait, ils vont passer sur le sol en une seule fois, en semis direct. Les semis directs, ça représente 1,7% de toutes les terres. Hein. Et par contre, ça représente 85,9% des surfaces traitées en glyphosate. Wow.
Ceux
qui font du labourage, alors il y a plusieurs types de... Bon, là, j'ai parlé du semi-direct. Il y a des techniques culturales simplifiées qui sont des TCS. Aucun labour et au moins une intervention de sol sans retournement. Ensuite, il y a des labours occasionnels qui sont un ou deux labours sur cinq ans, un labour fréquent, trois ou quatre labours sur cinq ans, et un labour tous les ans, c'est le labour systématique. Alors, le premier, les techniques culturelles simplifiées, ça représente 18% des exploitations, donc, et ça représente
39%. Est-ce que ça nous dit quelque chose?
Ben, ça nous dit que les glyphosates, ils sont exploités essentiellement quand on fait du semi-direct. Et le semi-direct, ça permet de pas retourner le sol. Alors, c'est vrai que ça a été la mode.
Ouais, mais est-ce que ça nous dit quelque chose de la crise actuelle?
Ben oui, ça nous dit quelque chose de la crise actuelle, parce que le premier truc qu'a essayé d'obtenir Monsieur Rousseau, et ce depuis assez longtemps,
c'est la
disparition du plan Ecofito. Il a encore manifesté.
C'est la reculade. Hein, c'est la reculade. Et les écolos ne sont pas contents.
Ou 2022. Et là, il a saisi la balle au bon de la part de Baye. Finalement, c'est un truc qui est ahurissant. Il saisit la balle au fond et
ne tape pas sur la table, s'il te plaît.
Et ce qu'il arrive à faire, c'est au moins en partie. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qu'il arrive à faire en faveur d'autres qui seraient moins aisés que lui, disons, c'est se servir de ce mécontentement de gens qui n'ont rien à voir avec lui pour essayer de
exactement, de
supprimer ce qui, lui, l'embête.
Exactement. Il a profité, ce type a profité d'un mécontentement général pour placer ses billes.
Alors, effectivement, alors il y a des débats
pour placer ses billes. Du peu que je comprends. Hein.
Est-ce qu'il faut labourer ou pas labourer? Bon, ça, j'ai lu qu'un agriculteur, il fait des essais, en fait, pour voir de quelle manière il va se débrouiller pour avoir le meilleur rendement. Mais en fait, le nombre d'essais, c'est toujours assez limité. Je crois que ça doit être 6 ou 7 essais sur une vie d'agriculteur, parce que tout ça prend du temps, disons. Hein. Le fait qu'il regroupe, puis c'est difficile même de regrouper les expériences, parce que la terre n'est pas la même à cet endroit et à l'autre, l'exposition n'est pas la même. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Mais j'en profite juste pour vous montrer la petite niche dans laquelle le glyphosate est utilisé, en des quantités qui ont diminué, c'est vrai. Et ce qu'il faut savoir également sur ces semi-directs, c'est qu'en fait, à éliminer tous les ce qu'on appelait les mauvaises herbes, donc les adventices, et qu'au bout de 3-4 ans ou 5 ans, alors en plus, le fait de ne pas retourner la terre, ça permet d'accumuler du carbone, donc c'est un autre facteur en faveur de plus labourer. Et malheureusement, si on finit par avoir une telle densité de adventices, et au bout de 3-4 ans, on peut être obligé de se remettre à labourer, parce que les terres donnent moins, donc. Et à ce moment-là, tout le bénéfice de ce qui s'est passé les 3-4 années précédentes est mort. Donc ça pose aussi des problèmes. Bref, ce problème entre labour ou pas labour est un problème entre spécialistes sur le terrain, disons. Donc je vais pas m'en mêler plus, mais simplement je remarque que là où est le glyphosate, c'est là où il y a le semi-direct. 85,9%, alors que pour toutes les stratégies du travail de sol, c'est seulement 20%. Qui représente la part des surfaces traitées au glyphosate. Donc 20% pour toutes les terres traitées par stratégie du travail au sol et 85% pour les surfaces traitées au glyphosate pour le semi-direct. Bon, ça fait réfléchir, disons, mais je pense qu'ils réfléchissent, effectivement. Mais sortir du glyphosate, donc ça s'avère effectivement une entreprise qui est suivie par de nombreux agriculteurs. Ils donnent quelques exemples, là, de gens qui y arrivent avec le problème des coûts, l'analyse des coûts, le problème de rendement, etc. Moi, ce que je veux juste souligner, parce que j'ai pas de molécules à vous fournir pour remplacer le glyphosate, c'est la différence qu'il existe dans les dans les gens qui ont manifesté, les gens qui sont sur les barrages et qui disent on vous nourrit 3 fois par jour. Alors c'est un très bon langage, celui-là, j'ai retrouvé au moins 10 fois hier de la part de Bouche, de gens différents. Ça fait un peu rigoler, mais enfin bon, c'est vrai pour eux, mais c'est pas vrai pour les plus gros. Les plus gros, ils sont plus du tout, ils ont plus les pieds dans la terre, quoi. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Tout en soutenant, moi je vais soutenir qui ? Ben, je vais soutenir les gens qui ont une petite exploitation et qui n'arrivent pas à se payer. Ça c'est évident. Et les autres, et je pense qu'il faudrait arriver à séparer, mais c'est ce qui se passe un peu puisqu'il y a plusieurs syndicats, il faudrait arriver à séparer quand même soit que la FNSEA s'occupe vraiment des gens qui sont même pas atteints par la PAC, mais ça je doute que ce soit possible, soit que les autres syndicats ils soient un peu plus percutants, disons. Mais c'est pas fini, puisque là la FNSEA a décrété qu'il levait le camp, mais il y a des gens qui prennent le relais, d'autres syndicats. Et notamment celui qui proposait, je crois, une absence de taxes supplémentaires sur le GNR, sur les 10 000 premiers litres, et puis ensuite augmenter les taxes. Ça, c'est très clair. C'est qu'elle défend des gens qui utilisent leurs tracteurs sur des champs qui ont des tailles très raisonnables. Alors maintenant, les gens qui veulent absolument faire de la superficie, comme aux États-Unis et se comparer, etc., c'est un autre problème.
c'était long.
Bah pour en rajouter une couche encore.
Non, stop. Non, à Radio Libertaire, The Post Non-Radio Show. Et avant que tu en rajoutes une couche, c'était un groupe qui s'appelle Body Lens et qui a envoyé par courrier postal, et cela a coûté 7 $ depuis le Canada anglophone, depuis la ville de Lethbridge, un mini CD, une cassette, et là on vient d'entendre un titre de leur mini CD 3 pouces EP, le troisième titre qui est, je crois, Icon. Benny Roy, Brandon Winchuk, Britney Houston, Queen Lee, Rebecca McHugh. Merci à vous de nous avoir envoyé ce disque et cette cassette. Je les passe sur Radio Libertaire.
Ah oui, ils font un effort pour nous envoyer des exemplaires.
Ah, ils l'ont envoyé, voilà.
C'est la moindre des choses.
Voilà, c'est la moindre des choses.
En plus, comme on n'a pas de contraintes de quota, de style de musique, puisqu'on passe tout sur Radio Libertaire. On se doit effectivement de tout ce qui nous est envoyé en CD, en vinyle.
C'était vachement bien.
Voilà, c'était très bien.
Alors oui, tu veux en repasser une couche.
Yves.
Ah, Yves, une couche.
C'est à propos de la PAC. Alors, monsieur Orban, il veut supprimer la PAC. Bon, j'ai entendu ça. Étonné qu'on ait les principaux bénéficiaires de la PAC en France. C'est pas ce que je souhaiterais personnellement. Mais donc l'Europe nous refile une bonne partie du fric que les États membres fournissent à l'Europe, et on est gagnant depuis des années là-dessus. Mais ensuite, ça va où? Eh ben, apparemment, ça va pas au bon. Bon, si ça va au bon, parce que ça va à Monsieur Rousseau, et donc il est très bon, mais s'il se fait 100 000 ou 200 000 euros de PAC, tant mieux pour lui, parce que ses surfaces en hectares sont grandes, et le mec qui a moins d'un hectare, de toute façon, il a rien, ou 2 hectares, ou 3 hectares, ou une centaine d'hectares, il a combien? Et tu me disais, quelqu'un de la famille royale anglaise, non?
C'était le prince Charles à l'époque
le
où.
Prince Charles a une période.
À l'époque où l'Angleterre était dans l'Union européenne, ouais. Le prince Charles, pour les cultures bio, c'était lui qui touchait le plus.
Bon, ben, c'est
de Pâques.
C'est quand même un truc entre initiés, ça.
Mais
alors,
non, mais
on n'est pas concerné parce que c'est l'Angleterre et c'est pas la France.
Non, mais c'est pas un truc entre initiés, puisqu'apparemment, c'est par rapport aux hectares que tu as, etc.
Oui, c'est par rapport aux hectares. Et donc, j'en ai parlé un peu tout à l'heure.
Sauf que ça revient aux plus riches.
C'est faire en sorte
donc,
que
ce n'est pas finalement ce système qui se veut égalitaire. Est complètement anti-égalitaire.
Il faut que ça aille non pas à la taille en hectares, mais au nombre d'agriculteurs, je veux dire les gens qui sont en train de travailler la terre et pas dans les bureaux, mm-hmm. Le nombre d'agriculteurs...
C'est anti-égalitaire, par exploitation. En fait.
Et c'est la proposition d'une des organisations syndicales que j'ai entendues, je ne sais plus laquelle, parce que je les confonds, je veux dire des imbéciles, mais effectivement, un des moyens, c'est ça. C'est, alors, de qui ça dépend? Je pense que ça dépend que de nous. Hein.
L'essentiel, c'est surtout la suppression de la politique agricole commune, parce qu'il y a trop de... On ne va pas faire venir d'Espagne certains trucs, certains légumes, certains fruits, alors qu'en France, on en a, des choses comme ça. Ça peut pas marcher l'agriculture au niveau en libre échange en Europe, ça marche pas. Ça c'est pas possible. C'est voilà.
C'est-à-dire que moi, si je m'aperçois que
j'ai acheté des bananes de l'Équateur cet après-midi.
Ah oui, mais là c'est différent, c'est autre chose. Ça c'est des bananes qui poussent dans des pays chauds. Mais nous en Europe,
ça vient d'Équateur. Ça vient d'Équateur. Je sais même pas si elles ont Je sais même pas ce qu'elles ont dans le corps, les bananes. Ça se voit, elles sont remplies de pesticides et de merde. Des bananes qui viennent de l'Équateur.
Bah oui, mais... Oui, remarque qu'elles pourraient venir de Martinique, hein, pourquoi pas.
Ouais, non, mais elles sont
là, ce serait effectivement...
Je ne sais pas ce qu'il en est des pesticides, mais on a quand même l'un des derniers pays à interdire les pesticides sur les bananes au territoire d'outre-mer. Donc, ouais. N'accusons pas trop les autres.
Donc, ta fameuse couche.
Donc, tu peux manger la peau.
Non, ben, c'est tout. Sinon, je peux continuer sur...
J'en ai acheté que deux. Hein.
Sur l'interview de Maryse Léon, qui critique beaucoup le gouvernement, mais est-ce que c'est étonnant bon, elle...
Ce qui serait étonnant, c'est d'aimer ce gouvernement, quoi.
Non, mais elle parle de l'ASS. Hein, et son,
oh là là
et son, ah. son, alors, l'ASS...
C'est l'allocation spécifique de solidarité.
Oui, c'est ce qui vient à la fin de tes...
quand t'es en fin de droit.
Chômage, en fait.
C'est ça.
Quand t'es en fin de droit. Donc, ça touche essentiellement des vieux, voire des handicapés.
Non,
voire,
pas forcément, etc. Pas forcément. Ça touche, disons, moi, j'ai été touché par ça quand j'étais plus jeune.
Oui, j'ai un ami qui l'a été touché également, oui. Donc, les... Mais on la touche...
On touche le fond, là.
Jusqu'à...
On touche le fond.
Si on a des revenus inférieurs à 1000 euros, je crois, un truc comme ça.
1200
euros.
On va criminaliser...
Euros. Alors que le RSA, on le touche à partir du moment où on gagne moins de 600 euros.
Pénaliser des gens qui sont un peu dans la merde, qui sont déjà dans la merde.
Ce que je commençais à dire, c'est que les gens qui touchent actuellement le ASS, donc l'ASS, ils gagnent moins de 1200. Ça va être remplacé par le RSA, mais là, ça touche les gens qui gagnent moins de 600 à peu près. Et donc, entre ces deux sommes, il va y avoir un trou. Les gens qui gagnent entre 600 et 1200 environ, hein, je n'ai pas les chiffres précis en tête et je m'en fous,
Non, ne t'en fous pas parce que tu seras du libertaire et tu dois être sourcé bon.
Oui, mais je ne sais pas là sous les yeux, eh bien ces gens, c'est bien plus important, ces gens vont être le bec dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus avoir de fric du tout. Outre que c'est fait pour supprimer les droits à la retraite, parce que ce monsieur qui est né avec une petite cuillère dans la bouche, je parle de monsieur Attal, il considère que seul le travail doit donner les droits à la retraite. Bon, c'est toujours... Alors,
c'est
justement,
grotesque.
Madame Maryse Léon lui répond, très mauvais argument, là encore on considère que ces personnes ont fait le choix d'être à l'ASS, or il s'agit de chômeurs de très longue durée qui sont allés au bout de leur droit à l'assurance chômage. Mmh. Ils ont atteint un âge auquel ils ne trouvent plus de place sur le marché de l'emploi, car les entreprises ne veulent pas d'eux, et c'est ça le problème. Supprimer l'ASS pour basculer les publics concernés vers le RSA, ça signifie concrètement une baisse des droits à la retraite, et c'est parfaitement injuste. C'est même répugnant, parce que c'est les gens qui vont passer, c'est s'attaquer aux plus faibles. Il n'est évidemment pas question de revenir sur le dogme de l'impôt qui diminue, je crois que c'est 2 milliards cette année. Et donc, voilà, c'est un gouvernement. Je ne sais pas ce qu'on apprend dans ces écoles privées par lesquelles sont passés ces ministres actuellement, là. Mais ce n'est pas très joli, je trouve.
Non.
Que pensez-vous de l'objectif de réduction du déficit à 3% et compatible avec l'objectif de plein emploi à 5% de chômage? Ça peut pas marcher, disons.
T'as que des mauvaises nouvelles comme ça à nous annoncer.
Les annonces de Monsieur Attal parasitent-elles la négociation en cours entre partenaires sociaux sur l'emploi des seniors? À ce stade, non. Ben voilà, c'est une bonne nouvelle. Mais il serait souhaitable que l'exécutif clarifie ses intentions sur cet acte 2 de la réforme du marché du travail, dont Monsieur Macron a parlé lors de sa conférence de presse du 16. Pour le moment, nous avons obtenu une garantie. En cas d'accord entre partenaires sociaux à l'issue de la négociation de l'emploi des seniors, M. Attal ainsi que Mme Catherine Vautier, qui est ministre du Travail, se sont engagés... Vautrin, pardon. Se sont engagés à respecter et à et à le transposer finalement dans, fidèlement pardon, dans un projet de loi. Bof.
Ça donne envie de voter LFI, ça. Hein.
La question que je me pose, c'est est-ce
ça
que...
Donne, ça donne, non, mais sérieux, ça, non mais sérieux, je veux dire, ça donne envie de voter LFI, quoi. C'est les seuls encore qui sont... qui sont un peu polis, parce que tu vas pas compter sur les écolos qui sont
je continue
une bande de, une bande de brêles, une bande de brêlouses.
Mais non, pas du tout.
Arrête, Marine Tondelier, c'est une brêle.
Mais pas du tout. Il faut l'écouter.
Mais ça donne, attends, j'écoute pas une nièce pareil. Hein,
mais t'as tort, c'est intéressant.
Mais ça me donne carrément envie de voter les filles, quoi. Quand j'entends ça. Tout ce massacre, tout ce... Ouais. Mais je sais que t'aimerais que je vote LFI.
Non, vu que je vote pas LFI.
Non, mais voter LFI, si t'as envie. Non, mais vu que je vote pas, mais vu le massacre...
Alors, te plains pas.
Non, mais attends.
Si tu votes pas, te plains pas.
Non, mais vas-y, attends, je fais quoi?
Eh ben, tu vas te promener dans les champs, mais tu te plains pas après, si tu votes pas.
Non, non, je vais emmener mon tracteur sur...
sur les Champs-Élysées.
Mais qu'est-ce qui me reste? J'ai rien, moi. Alors, j'ai rien, je veux dire, à part le vote, qu'est-ce qu'il y a? La protestation, la révolution, quelle révolution? Je vais aller brûler des poubelles tout seul. Bon, non, mais sérieux, parce que là, vu le massacre...
Je continue, il veut absolument me saboter mon
non,
mon
pas
article
du tout,
sur
non.
Marie-Zé.
Mais t'es en train de nous plomber complètement, là.
Elle dit aussi...
2024, c'est l'année des JO, on devrait tous rester.
Plus vite tu me laisses parler, et plus vite ça sera fini. Lors de la mobilisation contre la réforme des retraites l'an prochain, le gouvernement a parfois reproché aux manifestants leur irresponsabilité. Aujourd'hui, face aux agriculteurs, il fait preuve d'une très grande bienveillance. Que pensez-vous de son attitude ? Alors, Madame Maryse Léon répond « Ce qui me choque, c'est de considérer que la violence dont font preuve certains agriculteurs pourrait être plus légitime parce qu'ils travaillent. Ce clivage-là me paraît extrêmement délétère. C'est sous-entendre que les millions de personnes qui étaient dans la rue en 2023 pour des questions touchant au travail étaient moins fondées à s'exprimer. Ça n'est pas admissible. » Ensuite...
J'ai rien compris. Elle était pour ou elle était contre, j'ai rien compris.
Bah, ce qu'on entend à la radio, c'est qu'on ne va pas empêcher les gens. J'ai entendu Darmanin dire que ce sont des gens qui travaillent et qui expriment un malaise. Et donc, on ne va pas les embêter, on les laisse manifester. Et par ailleurs, au moment de la retraite...
Ils les ont arrêtés quand même.
Ils les ont arrêtés.
Ils ont arrangé, ils les ont coffrés, hein.
Ils avaient mis des lignes qu'ils ont franchies, donc c'est bon.
Non, Darmanouille...
Oui, mais enfin, ils ont quand même bloqué la circulation pendant une quinzaine de jours sur les autoroutes.
Oh, ça
c'est
va.
Pas moi que ça gêne, ma bagnole, elle est accidentée au garage.
Elle est au garage, ta bagnole.
Les Espagnols, ils râlent parce qu'ils ont pas fait traverser la France. Les gens qui possèdent les autoroutes, ils râlent parce que c'est des sommes en moins chaque jour.
Ah ben attends, qui ça? Ceux qui possèdent des autoroutes? Ceux qui font payer des péages absolument impossible. Bah non, oui. Mais enfin, tu vas pas non plus.
Bah, oui, bah
il y a des moments où tu es un peu réactionnaire.
Mais pas du tout. Ils vont récupérer cette somme en élevant le prix
bah
des
justement,
péages.
Justement, tu n'as pas vu passer l'info, les péages vont augmenter.
Mais j'ai vu. Simplement, ils vont augmenter encore plus.
Voilà. Les sociétés d'autoroute vont augmenter les péages.
Alors,
c'était peut-être un peu avant. Ou en même temps de cette histoire de nettoyage, mais je pense que c'était un peu avant l'histoire de nettoyer les autoroutes. Donc,
faut quand même se rendre compte
que Gérard Darmanin,
il parlait de coups de sang légitimes face aux agriculteurs. Alors que,
ah bah oui, Darmanin.
Alors que les gens qui manifestaient pour la retraite étaient traités d'irresponsables. C'est très bizarre, ça. C'est des copains.
C'est
des copains à Darmanin qui étaient sur l'autoroute ou quoi?
Pas tous.
C'est ça, je comprends
pas. Pas tous.
Non, c'est pas tous, mais il y a quand même apparemment deux poids, deux mesures. Non pas que j'aurais voulu que les agriculteurs se fassent tabasser, c'est pas le problème.
Mais
j'aurais souhaité que les autres, ils gardent leurs yeux, par exemple.
Bah, moi aussi.
Voulez-vous dire que le gouvernement attache de l'importance à l'opinion lorsqu'elle prend la défense des paysans, mais pas lorsqu'elle soutenait les manifestants opposés à la réforme des retraites? Et elle répond, la secrétaire de la CFDT, oui, complètement. Ce fut le seul moment où les sondages avaient beaucoup moins de poids. aux yeux de l'exécutif, son positionnement d'aujourd'hui s'expose aussi par le fait qu'il y a des élections européennes dans quelques mois. Oui, puis qu'il y a des copains.
Oui, mais ce n'est pas les mêmes copains, c'est la FNSEA, ce n'est pas les mêmes copains.
Oui, oui,
mais... On n'est pas copains avec tous les agriculteurs, on est copains avec ceux qui galèrent. Avec ceux qui galèrent à mort.
C'est pas la première fois où on observe.
Bah nous, on est copains avec ceux qui galèrent. C'est pas... Darmanin est copain avec celui de Macron, le mec Rousseau, là, qui est copain avec Macron, qui fait des cocktails avec lui, etc.
Enfin, c'est quand même pas la première fois où les agriculteurs bloquent une réforme. Il y a eu la réforme d'une loi qui avait été votée unanimement qui concernait une taxe sur les camions quand la gauche était au pouvoir, je crois. Et donc il y avait eu les bonnets rouges en Bretagne.
Les bonnets rouges,
le truc avait été retiré alors que c'était un texte sur lequel tout le monde était d'accord. Il y en a eu encore, mais ça passe sous les radars apparemment. C'est pas grave parce que c'est des agriculteurs, ils sont sympas. Mais n'empêche que il leur arrive de brûler des préfectures, etc., ou de déposer du lisier devant, etc. Et le mieux, c'est que ils expliquent dans les journaux que les dirigeants syndicaux s'accordent avec les préfectures, y compris pour déposer du lisier, etc., de façon à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Ok. Ça me fait rigoler.
Ouais, mais ça, c'est...
Que l'organisation conjointe des manifestations permette d'aller jusqu'à ce truc...
Ouais, tu parles de certains, pas de tous.
Hein. Je parle de ce que j'entends à la télévision à certains moments et je suis stupéfait. Je veux dire, je m'excuse.
Il y a une accointance, apparemment, il y a une accointance entre certains, mais c'est certain, c'est certain.
Moi, ce que j'ai entendu, c'est que nous avons l'habitude de négocier avec le préfet. Nous avons
donc, c'est la FNSEA qui a l'habitude de entre autres. Je suppose que c'est
Par rapport à ça, à les manifestations pour les bassines, dont il y a encore certains qui disent que ça a été carrément insurrectionnel et que le mouvement de la Terre là, avait été dissous, alors que je me rappelle d'un commandant de gendarmerie qui était en train de s'apercevoir que c'était ses troupes qui s'attaquaient à un mauvais groupe de manifestants et pas à celui qu'il avait dit. Bon, ce qui fait rigoler également. C'est quand même deux poids deux mesures, en ce sens qu'en plus tout le monde a tapé sur comment s'appelle cette organisation où il y a Terre dedans, c'est les Amis de la Terre.
Oui, les Amis de la Terre.
Les Soulèvements de la Terre.
Oui. Et que finalement ce truc a été annulé par la justice parce qu'il n'y avait pas lieu d'être. Donc c'est vraiment des positions extrémistes de la part de ce Darmanin qui tente de disqualifier tout ce qui est à sa gauche.
Oui, il fait jouer du pouvoir.
Mais il est au pouvoir.
Mais je veux dire, il joue du pouvoir. Il joue de son pouvoir.
Oui, mais il en joue de façon... les mots éco-terroristes, repris ensuite en boucle par tous les journalistes, il en joue de façon à perpétuer un système qui est en fait une tripartition de l'électorat, et donc il essaye de taper sur la gauche, il essaye peut-être de taper sur la droite, mais ça ne se remarque pas tellement, et tout ce qui risque d'arriver, c'est simplement que la gauche disparaisse. À ce moment-là, on aura le choix entre quoi et quoi, entre le Front National et puis ce gouvernement. Oh, merci du choix. Ça a déjà été le cas avec l'élection de Chirac-Le Pen, avec l'élection entre Chirac et
Le Pen. Les dernières élections aussi.
Ça a déjà été le cas entre Macron et Le Pen, donc merci de ces choix, c'est sympa.
Guy, tu as un mot à dire là-dessus?
Bon, je sais pas, moi Darmanin, c'est son amour propre, quoi. Il a voulu montrer qu'il était là par rapport à Attal, donc, parce que pourquoi empêcher les autres d'aller à Rungis? Je vois pas pourquoi, avec les tracteurs, ils n'auraient pas défilé devant Rungis et puis c'est tout.
Ils
auraient été contents, ils ont monté jusqu'à Rungis. À Rungis, ils n'allaient pas casser Rungis. C'est un endroit où leurs produits passent. Alors,
ils n'allaient pas
casser Rungis. Ça changeait quoi? Et puis ils seraient repartis encore plus vite, peut-être chez eux. fait rentrer chez eux parce qu'ils ont hâte de rentrer chez eux, ils ont du boulot. Donc, non, mais c'est son amour propre. Il a voulu montrer que moi, Darmanin, je suis là. Bah oui. Puis il va continuer avec les Jeux Olympiques. Et puis bon, voilà.
C'est pour rentrer dans les détails encore, pour avoir laissé ces manifestations s'exercer sur la voie publique sans bouger pendant plusieurs jours, j'ai vu qu'il y avait eu des blocages de l'autoroute par des gendarmes. Ça serait c'est leur boulot. Et les agriculteurs qui sont malins et forts et tout, ils démontent les rambardes de l'autoroute, ils passent à travers champs, etc. Bon, et qui est-ce qui remet les rambardes et qui est-ce qui répare les dégâts, etc. C'est une société privée. Donc qui va finir par payer les frais de ça? C'est les gens qui descendent en vacances. Donc je suis désolé, mais moi ces trucs de blocage de circulation, ça m'énervait déjà quand il y avait les gilets jaunes. Il m'arrivait déjà de dire que dans Paris, les gens s'en foutaient complètement parce que de toute manière, ils prenaient l'avion pour aller passer les vacances dans des clubs de merde au Maroc ou au club méditerranéen ou autre. Et donc, ils ne seraient pas impactés du tout. Et que les seuls qui seraient impactés seraient les gens qui prenaient leur voiture pour aller d'un point A à un point B en France. Mais donc moi je suis pas du tout d'accord pour bloquer
ok, d'accord.
Ces routes. D'ailleurs il y a des textes qu'on ferait bien d'appliquer pour troubles pour empêcher les circulations. Il y a des textes. C'est ma façon d'être anarchiste. J'aime bien qu'on soit anarchiste, mais pas qu'on foute le bordel.
Le jour où il faudra changer vraiment les choses, il y aura sans doute du bordel. Je pense que Darmanin, quand même, il a vu aussi de son œil aiguisé qu'en face, il y avait du lourd. Hein. Attention, il y avait du lourd. Ouais.